find out how to make the rest of the journey. And what about you? I will accompany you as far as you wish me to. In Petrograd, we took turns all day to queue for tickets to Narva. The train left the following morning on a 24-hour journey. Around midnight, our compartment fell silent, and I finally plucked up the courage to speak to Pasha. I put my lips up against his ear and whispered as quietly as I could, "I don't want to press you, but I wondered if you would mind very much if I asked you to marry me. I didn't know whether I should ask you, what with the matter of the baby, and of course marriage itself is utterly bourgeois, against both our principles. I quite understand if you refuse." He still said nothing, but I could feel him pulling away from me. "No, I've started this all wrong. Wait, please. It's nothing to do with the revolutionary principles. I loved Nikita. We both love Nikita. We will never stop loving him. But I made a mistake. I misunderstood what love felt like. Do you see? For whatever reason, I thought of love as something difficult, something I should suffer for." I swallowed hard, floundering. "I didn't realise I loved you, because it was just so easy and warm and good." Suddenly I felt his finger on my lips. "Shh! No."
"No?"
My voice rose to a squeak. "No, I don't mind marrying you, my darling love, you absolute idiot." We kissed in the darkness, all the way to the border. We were married in Tallinn. The city was battered by civil war, but to us it seemed the epitome of peace. The Korbelivs had friends, perhaps even distant cousins, the Rauds, who had an estate south of Tallinn. Kind, generous people that they were, they housed us for almost 6 months. In the middle of April, she emerged. You emerged. We called you Sophia, for Sonia, and also for the calm wisdom that you seemed to exude. We set up home in London, it being easier for both of us to find work here, and after a couple of years, your Korbeliv grandparents joined us. We spent a good life together, with you, and later your boys, our grandchildren. We were an ordinary family, bourgeois, by the IRT's reckoning. We grew old. Our lives were not marked by any exceptional achievements, if you discount the raising of one clever, serious daughter, who, despite her parents' lack of scientific ability, became a mineralogist and studied for a PhD in rare earth metals and brought up her two sons to dream of social justice. And so, at last, to the reappearance of the vanishing futurist. Books and a feature-length film came out, and several physics departments were named in his honour. Yet no one has ever managed to explain how his machine could have resulted in his disappearance. During Khrushchev's time in power, when so many injustices came to light, Pasha told me he wanted to try to discover the truth about Nikita's death. I was reluctant. We argued over it, and Pasha didn't bring the subject up again. When you first brought these boxes of papers down from the attic, however, I opened them to find an envelope with a Russian postmark that I'd never seen before. Inside, a printed slip in Russian, "In response to your request." Pasha obviously wrote for information despite my resistance and then left the results for me. He knew that when I looked through the IRT papers again, when I was ready to tell you this story, I would find it. It was a last act of love for you, Sophie, as well as for his friend. The printed slip had a header, blurrily stamped in the pale green favoured by Soviet bureaucracy, which announced it originated in the Ministry of Internal Affairs of the USSR. Behind it was a photograph of some kind of form. Stamped in large red letters over the form were the words, restricted information. The truth is that Nikita Slavkin died of a bullet to the head in the filthy backyard of a lunatic asylum. An image floats back to me. The first weeks of the IRT, and all of us are lying together on the lawn at Gargarinsky Lane, gazing at the first stars, and the smell of dry grass is in the air. The end of summer, and Nikita is speaking. For better or worse, we are creating the future here, in our minds. Each time we allow ourselves to imagine a harmonious world, we bring it closer. Just share your thoughts with us. You know the answer, if only you can discover it within yourself. Inside your imagination lies the blueprint for the future. How, why, what you will into being. This is the choice that confronts you and all of us.
Par leur seul aspect, ces étranges appareils donnaient déjà l'impression d'avoir été faits en des temps très anciens. Ils étaient en ébène, avec des incrustations d'ivoire et de nacre. Lorsqu'on ne s'en servait pas et qu'on les rangeait ensemble, ils formaient une masse qui rappelait l'arbre vezanelnien, avec ses ramifications toutes semblables. À les regarder de plus près, chacun de ces appareils se présentait sous forme d'un pilier lisse, plus haut qu'un homme, fixé sur un trépied, et d'où partaient, en sept endroits, des branches spécialement façonnées. Ces branches étaient divisées en sept segments de dimensions différentes. Chacun de ces segments diminuait de longueur et de largeur en raison directe de son éloignement du pilier. Chaque segment était relié au suivant au moyen de deux boules creuses en ivoire, emboîtées l'une dans l'autre. La boule extérieure ne recouvrait pas entièrement la boule intérieure, ce qui permettait de fixer à celle-ci l'une des extrémités d'un segment quelconque de la branche, tandis qu'à la boule extérieure pouvait se fixer l'extrémité d'un autre segment. Cette sorte de jonction ressemblait à l'articulation de l'épaule de l'homme et permettait aux sept segments de chaque branche de se mouvoir dans la direction voulue. Sur la boule intérieure étaient tracés des signes. Il y avait trois de ces appareils dans la salle. Près de chacun d'eux se dressait une petite armoire remplie de plaques de métal de forme carrée. Sur ces plaques étaient également tracés certains signes. Le prince Loubovetsky nous expliqua que ces plaques étaient des reproductions de plaques d'or pur qui se trouvaient chez le Tchèque. Les experts faisaient remonter l'origine de ces plaques et ces appareils à quelque 4500 ans. Puis le prince nous expliqua qu'en faisant correspondre les signes tracés sur les boules avec ceux des plaques, les boules prenaient une certaine position qui commandait à son tour la position des segments. Pour chaque cas donné, lorsque toutes les boules sont disposées de manière voulue, la pose correspondante se trouve parfaitement définie dans sa forme et son amplitude. Et les jeunes prêtresses restent pendant des heures devant les appareils ainsi réglés pour apprendre à sentir cette pose et à se la rappeler. Il faut de longues années avant qu'il soit permis à ces futures prêtresses de danser au temple. Seules peuvent y danser les prêtresses âgées et expérimentées. Dans ce monastère, tous connaissent l'alphabet de ces poses, et le soir, lorsque les prêtresses dansent dans la grande salle du temple, suivant le rituel approprié à ce jour, les frères lisent dans ces poses des vérités que les hommes y ont insérées il y a plusieurs milliers d'années. Ces danses remplissent une fonction analogue à celle de nos livres. Comme nous le faisons aujourd'hui sur le papier, des hommes ont jadis noté dans ces poses des informations relatives à des événements passés depuis longtemps, afin de les transmettre de siècle en siècle aux hommes des générations futures, et ils nommèrent ces danses des danses sacrées. Celles qui deviennent prêtresses sont pour la plupart des jeunes filles consacrées dès le plus jeune âge, selon le vœu de leurs parents ou pour d'autres raisons, au service de Dieu ou d'un saint. Ces futures prêtresses entrent au temple dès l'enfance pour y recevoir toute l'instruction et la préparation nécessaires, notamment en ce qui concerne les danses sacrées. Peu après avoir vu pour la première fois cette classe, j'eus l'occasion de voir danser les véritables prêtresses et je fus étonné non pas par le sens de ces danses, que je ne comprenais pas encore, mais par l'exactitude extérieure et la précision avec lesquelles elles étaient exécutées. Ni en Europe, ni en aucun des lieux où j'avais observé avec un intérêt conscient cette manifestation humaine automatisée, jamais je n'avais rien rencontré de comparable à cette pureté d'exécution. Nous vivions dans ce monastère depuis 3 mois, et nous commencions à nous acclimater aux conditions existantes, lorsqu'un jour le prince vint à moi d'un air grave. Il me dit que le matin même, on l'avait fait appeler chez le Tchèque, où il avait trouvé plusieurs des frères les plus âgés. « Le Tchèque m'a dit, ajouta le prince, qu'il ne me restait que 3 ans à vivre, et qu'il me conseillait de les passer au monastère Holman, situé sur le versant nord de l'Himalaya, pour mieux employer ce temps à ce qui avait été l'aspiration de toute ma vie. Il s'est engagé, si j'y consentais, à me donner toutes les instructions et les directives nécessaires, et à tout arranger pour que mon séjour là-bas soit réellement fécond. Sans la moindre hésitation, j'ai immédiatement donné mon accord, et il a été décidé que je partirai dans 3 jours, accompagné d'hommes qualifiés. Et je veux passer ces derniers jours entièrement avec toi, qui est devenu, par hasard, l'être le plus proche de moi dans cette vie. La surprise me cloua sur place, et je restai longtemps hors d'état de prononcer une seule parole. Quand je fus un peu revenu à moi, je lui demandai encore : « Est-il possible que ce soit vrai ? » Oui, répondit le prince, je ne peux rien faire de mieux pour employer le temps qui me reste. Peut-être pourrais-je ainsi rattraper celui que j'ai perdu de manière si inutile et si absurde, alors que pendant de nombreuses années, j'ai eu tant de possibilités. Nous ferons mieux de ne plus parler de cela, mais d'employer ces 3 jours à quelque chose de plus essentiel pour le présent. Quant à toi, continue à penser que je suis mort depuis longtemps. Ne m'as-tu pas dit toi-même, à ton arrivée, que tu avais fait célébrer un service pour moi et que tu t'étais peu à peu résigné à l'idée de m'avoir perdu? Et maintenant, de même que nous nous sommes retrouvés par hasard, de même par hasard, nous nous séparerons sans tristesse. Peut-être n'était-il pas difficile pour le prince de parler de tout cela avec autant de sérénité. Mais pour moi, c'était très dur de me rendre compte que j'allais perdre, et cette fois pour toujours, l'homme qui m'était le plus cher. Nous passâmes ces 3 jours sans nous quitter, et parlâmes de toutes sortes de choses. Mais mon cœur était lourd, surtout quand le prince souriait. À cette vue, mon âme était déchirée, parce que ce sourire était pour moi le signe de sa bonté, de son amour et de sa patience. Finalement, quand les 3 jours furent écoulés, un matin bien triste pour moi, j'aidai moi-même à charger la caravane qui devait m'enlever à jamais cet homme si bon. Il me demanda de ne pas l'accompagner. La caravane se mit en marche. Avant de disparaître derrière la montagne, le prince se retourna, me regarda et me bénit 3 fois. « Paix à ton âme, saint homme, prince Youri Lobovetsky. Je veux maintenant, pour conclure ce chapitre consacré au prince Youri Lobovetsky, décrire dans tous ses détails la mort tragique de Soloviev, qui se produisit dans des circonstances très particulières.
Brothers and sisters in Calais, from Eritrea, Sudan, Bahrain, Afghanistan, Europe, all over the world. Marhabik fi Calais, marhabik Africa House.
Salam alaikum, alaikum salam. Bila bila caravan in a Ramadan. Drove to Dover, took a boat to Calais. No border movement, people in my brain. Welcome in the jungles and the squats and the slums. Afghan Pashtun, Hazar Kurdistan. Ethiopia, Eritrea, Nigeria, Sudan. Beautiful people, I'm gonna call them illegal. Police brutality, it's a reality. It's insanity, where them humanity? Seekers of asylum, beaten, treating violence. Terrorize migrants, harass them, who show them kindness. Respect activists, work hard and take risks. Good food and good music, put me in the mood to spit. This that Combat Wombat, Project Wildcat, Boom Track. Revolution rap, you can find we on that.
No justice, no peace, it's stop the police. No justice, no peace. Stop the police, no justice, no peace. Stop the police.
Spent my whole life in the game battling to tame. My brain is the machine taking over my brain. Traveling across Europe from Greece to Italy, ending up in Calais, cause we want to be free. I see a new life waiting for me. Across the water border is where I want to be. But today in Calais, it's a beautiful day. Should I stay or go away?
It's a beautiful day in Adi Calais. When the police come, I have to run away.
Should I stay or go away?
Escape from Calais.
Should I stay or go away?
Escape from Calais.
Should I stay or go away?
Escape from Calais.
Should I stay or go away?
Escape from Calais.
No justice, no peace. Stop the police. No justice, no peace. Stop your police. No justice, no peace. Stop your police. No justice, no peace. Stop your police.
No justice, no peace. Stop the police. No justice, no peace. Stop the police.
No justice, no peace. Stop the police.
No justice, no peace. Stop the police.
chicks in business. It's why they love you, how they love you. The rest is just for kicks, kicks, kicks. Let's roll out now, power up the sound. We're the wanderers, has some fears, weak satellites to go. Your friends, but then it doesn't matter. Window to ladder, the night will come again. Just the weekend, just the weekend.
Yeah. is here for you. Don't you know it's best of both worlds?
Thank you. veins went black when she took back her love and put it out into the sun. The birds did fly where the heavens all went dry, and the cigarettes were smoking by themselves. She'll do anything. She'll do anything. She'll do anything to make you feel like an asshole. Question marks stretched across her skin. She dangles carrots, makes you feel embarrassed to be the fool you know you are. She'll do anything. She'll do anything.
Separation, big farewell, every nation. stad. Amsterdam is niet de Amstel, niet de Dam en niet het IJ. Ik zeg jou, Isaac Meijer, Amsterdam ben jij. Een naam raak je maar kwijt, een plaats zul je verliezen. En roem is puur geluk, wat heeft een mens te kiezen? Ik zing van Amsterdam, maar ik zing niet van gebouwen. Ik zing niet van succes, maar ik zing van mijn vertrouwen. Isaac Meijer, in jou heb ik het vervat. Stenen worden nooit een stad. Amsterdam is niet de Amstel, niet de Dam en niet het IJ. Ik zeg jou, Isaac Meijer, Amsterdam ben jij. De mensen zijn de stad en mensen gaan ten onder. De stenen blijven staan en daarin ligt het wonder. Dat door de eeuwen heen, hoe in het nauw gedreven, die velen aan de stad een hart hebben gegeven.
My baby, you can go and ask it. My like a rock star. Spend a lot of money on my brand new guitar. Baby's got a habit, diamond rings and Fendi sports bras. Riding down Rodeo in my Maserati sports car. God knows stress, I've been through all that. I'm like a Marlboro man, so I keep going back. Wish I could roll on back to that old town.
Gotta change around here. Gotta change around here. Can't go on this way. Things gotta change around here. Say it loud, say it clear. Things gonna change around here. Fingers on the trigger around here. Fingers on the trigger around here. Bullets flying, mothers crying. We gotta change around here. Get it straight, be sure that you hear. Things gonna change around here. What good is freedom if we haven't learned to be free? What good is freedom if we haven't learned to be free? Day after day, year after year, we're gonna change around here. We gotta change around here. Gotta change around here. Gotta change around here. Yeah. Lord, gotta change around here. Say it loud, say it clear. We gotta change around here.
I need a chair.